Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Hop. J'espère que ça va bien pour vous. Super, je vois tout le monde qui apparaît. Je vais mettre les commentaires qui sont prêts. Hop. Voilà. Toujours une petite phase d'installation. Alors, ça y est, je vois tout le monde. Bonjour Nick. Bonjour l'autre Nick Harris, Nick Tax. Kat, bonjour Lynn Chapman. Ah, vous avez des super bibliothèques. Bonjour Marie, bonjour Lynn qui est dans le sud. Bonjour Cathy, Allison, Pamela. Qui avait une bonne question pour aujourd'hui, John, Beth, Kelly et Janet pour l'instant. Très bien, bonjour à tous. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est notre dernière session du salon. Hop là, voilà. Ça fait bizarre que ça soit la dernière, je vous avoue, parce que c'est un programme, ça y est, c'est bon, que je suis installée, que j'ai depuis des années. Et en fait, il y a des fois, bah, il est temps de changer, de faire évoluer le format. Et ce moment est venu. Et donc, on a une autre idée qui va vous plaire dans les cartons. Et sur le chat, bonjour Nick Harris, bonjour John, bonjour Kelly, bonjour Lynn. Donc, je ne vais pas vous dire des choses maintenant, mais il y a une grosse, grosse enquête qui arrive. So, big survey is coming very soon. It's almost ready. We're putting the last commas and little details everywhere because it's a big thing and it has to be perfect. Donc, il y aura plein de questions. Ça va vous mettre la puce à l'oreille aussi. Il y a pas mal de choses où vous allez vous dire, il se prépare quelque chose et en effet, donc ce sera un nouveau programme qui sera aussi probable. Enfin, je vous donne des petits détails, mais ce sera encore quelque chose de mensuel et ça permettra d'avoir des informations. Ce sera très culturel aussi. Et ce sera à plus grande échelle. Et j'espère pouvoir continuer à faire ce genre de session moins régulièrement, mais avec plus de monde et encore sur des sujets culturels. Là encore, c'est très, très des. J'ai encore pas d'idées, enfin de détails, mais je sais que ces vidéos qu'on fera là, ces cours comme ça, si j'en fais, ce sera gratuit pour tous les clients existants de Commune française. Donc, vous n'aurez pas de supplément à payer et on pourra parler encore de sujets culturels, de sujets de fond, de l'actualité pour que tout le monde puisse vraiment poser des questions. Et vous aurez encore l'opportunité de poser vos questions et de proposer des sujets. D'accord? Mais ça, c'est mon petit plaisir à moi, je vous avoue, par rapport à d'autres choses qu'on est en train de mettre en place qui seront plus structurées. Là, ce sera vraiment peu structuré comme ce qu'on fait ici. Pour pouvoir vous donner plein, plein, plein de choses pour apprécier le français, la francophonie beaucoup plus largement que juste la France, comme on a fait jusqu'à maintenant, et la culture francophone. Voilà. Donc, je vous donne pas trop de... je peux pas vous donner trop de détails, mais il y a des choses qui vont vous plaire qui arrivent. Alors, aujourd'hui, en fait, je voulais en profiter pour vous rappeler quelques éléments de choses que vous avez appris dans le salon. D'accord? Alors, je vais partager mon écran. Masquer la vidéo, non. J'ai perdu la barre de... J'ai perdu la barre. Ça y est, j'ai la barre. Je cherchais la barre pour pouvoir partager mon écran. Partager l'écran. Ça y est. Alors, Chrome, c'est celui-ci. Ok, donc là, normalement, vous devriez pouvoir voir mon écran. Donc, en fait, je voulais faire un petit... je vais enlever ce truc-là. Je voulais récapituler les choses importantes pour que, à l'avenir, vous puissiez continuer à découvrir des choses que j'aurais pu vous faire découvrir dans le salon, mais tout seul, et qu'on puisse aussi en parler plus tard et s'échanger des idées. Donc, la dernière fois, on avait essentiellement répondu aux questions et j'aimerais d'abord commencer par ça parce que il y a des éléments assez simples sur le vocabulaire, mais c'est très vaste Et puis, une question de Pamela sur la guerre en Ukraine et les présidentielles qui arrivent. Donc, d'abord, la question de Marie Kelly. Salut Géraldine, est-ce que tu pourrais nous expliquer les usages et les sens du verbe attendre? J'ai réfléchi sur ça quand je voulais dire We expect to arrive around 5:30. Il y a tant d'expressions avec attendre, mais je ne comprends pas très bien les différences subtiles entre elles. Alors, Marie-Kélie, c'est une très bonne question. Le seul problème, c'est qu'on pourrait parler 10 heures de ce sujet-là. Il est vraiment très, très vaste. Donc, je vais regarder un petit peu attendre. Mais attendre, en gros, c'est to wait. D'accord? C'est to wait. Et s'attendre, c'est to wait yourself. Donc, c'est to expect. D'accord? On s'attend à. Mais là, en fait, we expect to arrive right 5:30. En fait, je dirais beaucoup plus simplement, on pense arriver autour de 5h30. D'accord? On pense, ou on peut dire nous pensons aussi. D'accord? C'est égal. Nous pensons, on pense arriver autour de. On va mettre 17h30, comme ça on est vraiment précis. Évidemment, en général, 5 heures, ce n'est pas très ambigu, parce qu'on arrive vraiment à 5 heures du matin, on arrive plutôt autour de 5 heures du soir. Mais on va quand même le mettre parce que ça nous permet de creuser un petit peu. On peut tout à fait dire la même chose avec nous pensons. Arriver autour de 17h30. Quand Marie pose cette question et qu'elle pose la question autour de attendre, évidemment, on pourrait dire on s'attend à arriver autour de 17h30. D'accord? Ici, attention, ce ne serait pas attendre, ce serait s'attendre. D'accord? On s'attend à arriver autour de 17h30. Mais finalement, ça donne une structure très formelle, un peu trop compliquée pour quelque chose de finalement très simple. On peut tout à fait dire on pense arriver autour de 17h30 ou nous pensons arriver autour de 17h30. En termes d'usage, c'est quelque chose qui se rapproche plus d'un très simple we expect to arrive around 5:30. Donc, à moins d'être en train de parler à, je sais pas, une personne très importante dans un milieu très littéraire, si c'est pour arriver dans un hôtel ou arriver chez des amis, on pense arriver autour de 17h30, c'est très bien et c'est beaucoup plus simple. Donc, effectivement, Marie-Kélie posait la question du nombre, enfin de toute l'étendue des traductions d'attendre. Alors oui, en fait, attendre, c'est très, très étendu, mais en gros, c'est wait, d'accord? Comme ils disent ici, attendre, patienter, je n'aime pas attendre chez le dentiste, I don't like having to wait at the dentist. D'accord? Donc en fait, c'est à peu près toujours ça, avec une petite différence de sens. Par exemple, rester tel quel, rester pour, etc. Finalement, attendre, c'est à peu près toujours wait ou await. Évidemment, quand on va attendre quelque chose de quelqu'un, par exemple, ici, attendre quelque chose espéré avec le sens to hope, on peut dire to expect, d'accord? On peut le traduire en anglais par to expect, mais en fait, c'est you wait for something to happen. Et en fait, c'est à nouveau l'usage d'attendre. Et en fait, attendre, on peut l'utiliser pour traduire énormément de choses. Donc, je ne peux pas là tout de suite enfin, faire toute la liste des sens parce que c'est sans fin. Mais en gros, vous pouvez toujours l'utiliser quand vous voulez traduire to wait. Après, il y a énormément d'expressions. Attendre quelqu'un au tournant, etc. Les formes qui sont importantes, c'est par exemple attendre un bébé, d'accord? To expect a baby. Celle-là, elle est importante parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va dire. On va dire être enceinte ou attendre un bébé. Et en fait, si vous êtes un homme, vous allez en général dire on attend un bébé, d'accord? Jean et Marie attendent un bébé. Pour Noël. On va aller plus loin, on va mettre Joseph et Marie. D'ailleurs, ça, c'est par définition, ce ne sera pas encore Noël vu que le bébé sera pas né. Joseph et Marie attendent un bébé pour Noël. Donc là, attendre un bébé, c'est une expression qui est importante. Ou attendre un enfant, d'accord? On peut dire, ou une fille, ou un garçon, peu importe. Après, attendre quelqu'un au tournant, c'est un peu agressif. Attendre la suite des événements, attendre que ça se passe, ça c'est à peu près simple. Attendre un heureux événement, c'est pareil. Voilà. Dans les expressions qui peuvent vous servir quand vous voyagez ou quand vous, enfin, quand, ouais, quand vous voyagez dans la francophonie, c'est s'attendre à. Ça, c'est intéressant parce que donc attendre, c'est to wait, mais s'attendre à, c'est to expect something. Donc, c'est to wait yourself, d'accord? C'est vraiment. En fait, la traduction, c'est to expect, mais enfin. Si vous voulez réfléchir au sens, c'est to wait yourself. Donc, par exemple, je ne m'attendais pas à un spectacle aussi époustouflant. D'accord? I didn't expect a show so mind-blowing, so amazing. S'attendre à mieux, s'attendre au pire. Donc, on a aussi, bah là, c'est un peu d'actualité. Il s'attend au pire à propos. Je vais pas, j'ai pas envie de parler de la guerre. Donc, il s'attend au pire à propos il s'attend au pire qu'est-ce qu'on veut dire qu'est-ce s'attendre au pire je cherche un exemple pas dramatique Marcel a oublié son gâteau dans le four ce matin il s'attend au pire. Soit son... Non, on va mettre sur le balcon. Miss Marcel a oublié son gâteau sur le bord de la fenêtre. Voilà, c'est pas très grave comme ça. Soit il est tombé. Soit les oiseaux l'ont mangé. Voilà, comme ça, c'est pas très grave. Donc, s'attendre au pire, c'est to expect the worst. The worst. Mais si on dit s'attendre à quelque chose, c'est tout à fait correct. If you want to say I expected something better, vous pouvez dire ce spectacle m'a déçu, si vous êtes une femme, m'a déçu, je m'attendais à mieux. Alors, Curtis, bonjour Curtis. Curtis demande, on peut utiliser cette construction pour un match de foot? Oui, tout à fait, tout à fait. Par exemple, les supporters s'attendent au pire pour le match de samedi. L'équipe n'a quasiment aucune chance de gagner. Voilà. Donc ici, je mets un petit peu de contexte en plus parce que comme ça, on va vraiment insister. Mais si tu dis les supporters s'attendent au pire pour le match de samedi, ça marche très bien. D'accord? Et on ne dit pas attendre le pire. On dit s'attendre au pire. D'accord? Il faut vraiment l'apprendre comme ça. S'attendre à mieux, s'attendre au pire. S'attendre, c'est vraiment beaucoup plus intéressant que juste attendre, parce que finalement, attendre, vous pouvez à peu près le traduire toujours par wait. Voilà. Ça peut. En fait. Pour ce genre de choses comme s'attendre, le mieux, c'est soit de lire le truc, soit en fait de voir ce que tu veux traduire. D'accord? Et c'est là qu'on peut aller de l'anglais vers le français avec la meilleure solution pour toi. Parce qu'en fait, si juste apprends le vocabulaire par cœur, ça te fait une masse de choses à retenir qui finalement ne te servira pas forcément. Donc ça, c'est vraiment très important quand vous apprenez du vocabulaire. Donc je voulais te remercier pour le salon, c'est super, cool. Trop bien. Alors, Pamela avait deux questions sur les élections présidentielles qui arrivent et une autre sur le traitement de l'actualité, notamment la guerre en Ukraine. Donc, Bernard votera aux deux élections françaises. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Bernard, c'est le mari de Pamela et il a la nationalité française. Il est français. On regarde l'actualité politique française. Je me demande sur les parrainages où un candidat présidentiel doit avoir au moins 500 signatures d'élus dans tout le pays pour avoir son nom sur le bulletin de vote. J'ai cherché le site de parrainage, mais je ne connais pas pourquoi les parrainages sont nécessaires. Les parrainages ne reflètent pas la popularité des citoyens. Pourquoi ça a été fait? Alors, en fait, je ne savais pas. Je suis allée voir. Les parrainages ont été lancés dans les années 50 pour qu'il n'y ait pas de candidature fantaisiste de gens comme ça. C'était pour pas que n'importe qui puisse se présenter. Et en fait, donc, avant, il en fallait beaucoup moins, il en fallait 100, maintenant il en faut 500. Et ça pose évidemment, comme tu le dis, la question de la représentativité par rapport à la population. Donc je suis tout à fait d'accord. Enfin, pourquoi, etc., etc. Donc voilà, depuis 1976, c'est 500. Et en fait, il faut des élus, sachant que ça peut être aussi des députés ou des sénateurs aussi. Mais il y a beaucoup de maires, donc c'est plutôt des maires. Donc voilà, c'est la question. Et aussi, pourquoi est-ce que le maire de ma ville voterait pour un candidat d'un autre parti ou pas? Enfin, c'est toujours la même chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'extrême droite dit toujours qu'elle n'atteindra pas les 500 et qu'il faut réformer le système, mais ils arrivent toujours à l'atteindre. En fait, ils se posent toujours comme des gens qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas inclus dans le débat, mais en fait, ils obtiennent toujours les 500 signatures et ça fait des années que ça dure. Donc, quand vous entendez juste avant la limite que les gens n'ont pas sont encore très loin ou ils sont censurés par cette histoire de 500 signatures, ce n'est pas vrai. L'extrême droite a toujours ses 500 signatures. Et ce qu'on pourrait faire à la place, et ce qui est fait dans d'autres pays, c'est ce qu'on appelle le parrainage citoyen, et ce qui est proposé apparemment par certains partis politiques. Donc le parrainage citoyen, c'est en fait un certain nombre de gens qui peuvent proposer un candidat. Il faut avoir assez de gens pour que ça soit accepté. Voilà, je ne vais pas expliquer parce que ça ne s'applique pas en France, mais voilà, ils disent qu'il y a en Portugal, il y a en Finlande, j'ai vu aussi, en Pologne, en Roumanie. Donc voilà, il y a d'autres façons de mettre des candidats sur les bulletins de vote qui existent. Mais en France, il se trouve que c'est ça, ce sont les 500 signatures des élus. Voilà, donc on appelle ça les 500 signatures. Est-ce que tu l'avais écrit? Voilà, on dit les 500 signatures. En général, quand on parle de ça, c'est toujours les 500 signatures qui sont liées à l'élection. Oups, mince, je viens de faire tomber ma tasse de thé. Excusez-moi, j'ai mis de l'eau partout. Voilà, donc actuellement, il y a même certains candidats qui ne pensaient pas les avoir, qui les ont eus. Il y a un candidat d'extrême gauche qui s'appelle Philippe Poutou, qui a à peu près aucune chance de gagner, mais qui est quand même là, qui a eu ses 500 signatures. Si vous voulez, on peut regarder, parce qu'en fait, la validation des 500 signatures, ça débute l'élection présidentielle 2022. Voilà, c'est bientôt, c'est le 10 avril. Voilà, donc là, vous avez les personnes qui ont, je pense, les 500 signatures. Je vais vous zoomer comme ça, vous verrez mieux. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Non. Voilà. Donc, en fait, ça va de gauche à. Non, ça va pas de gauche à droite. Donc, ici, vous avez Nathalie Arthaud. Elle, c'est une communiste. Donc, la Ligue ouvrière, extrême gauche. Elle est là un peu tout à chaque fois, mais ils vont jamais gagner, évidemment. Ah, ben voilà, il y a le vrai parti communiste avec Fabien Roussel. Oui, je ne savais même pas qu'il existait. Emmanuel Macron qui se représente avec La République En Marche, qui est son parti. Jean Lassalle, hein, lui je ne savais même pas qu'il était encore là, vous voyez. Il y a beaucoup de petits candidats qui n'ont aucune chance. Marine Le Pen avec son parti donc, qui s'appelait avant le Front National, qui s'appelle le Rassemblement National. Et là, donc Éric Zemmour, vous l'avez probablement déjà entendu, donc c'était un ancien homme de télévision qui est maintenant enfin, qui a toujours été d'extrême droite, mais qui a maintenant un parti Reconquête. Jean-Luc Mélenchon, qu'on a déjà vu à la présidentielle précédente aussi, qui est d'extrême gauche, Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris, et elle est au Parti socialiste, donc c'était l'ancien gros parti de la gauche qui s'est complètement effondré, et ça, c'est assez catastrophique parce qu'il n'y a plus un gros parti de la gauche. Et Yannick Jadot, des Verts, Valérie Pécresse de la droite aussi, des Républicains. Donc c'est elle qui un peu succède à Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Philippe Poutou, donc il vient d'avoir les signatures, lui aussi il est d'extrême gauche, et Nicolas Dupont-Aignan qui est censé être au centre, mais il est franchement plutôt de droite. Ouais, voilà. Il est classé à droite, voire à l'extrême droite. Voilà, donc à l'intérieur de ça, franchement, c'est un peu compliqué. Et surtout, en fait, ce qui fait très peur à beaucoup de gens comme moi, c'est qu'en fait, avec la guerre en Ukraine, il n'y aura pas de débat. Enfin, je pense que la campagne présidentielle va presque disparaître et qu'Emmanuel Macron va gagner une place vraiment très supérieure aux autres candidats, encore plus qu'avant. Parce qu'en fait, comme le montrent souvent les statistiques, on ne change pas de président pendant une guerre. Parce qu'on ne veut pas changer d'intermédiaire. Donc, pour beaucoup, l'élection d'Emmanuel Macron est à peu près incontournable. Donc, voilà, c'est un peu difficile à vivre, surtout dans une démocratie. Mais voilà, c'est un peu le sentiment qui ressort. Notamment parce que Emmanuel Macron ne fait même pas vraiment de campagne. Il n'a rien présenté comme changement, ni rien. Voilà, en fait, il utilise juste sa position de négociateur face à Poutine. Les élections sont le 10 avril et le 24 avril. 24 avril, et en fait, donc le 10 avril, c'est tous les candidats. Les deux meilleurs. Voilà, les deux meilleurs. Et pour vous rappeler comment ça fonctionne, en France, il n'y a pas de vote électronique. On vote dans un bureau de vote avec un papier. Le vote avec un bulletin en papier. En fait, ça démocratise, enfin, ça donne un accès égal à tout le monde. Et on n'a pas de choses comme il y a aux États-Unis. Gerrymandering, un truc comme ça, où vous avez des quartiers et puis les votes dépendent des quartiers. En fait, en France, on prend les votes de tout le monde, tout le monde, tout le monde, et puis on voit qui gagne. Il n'y a pas de grands électeurs, etc. C'est chaque personne a un vote et puis chaque vote compte pour une personne. Voilà, si vous avez des questions sur les élections françaises, allez-y. Et d'ailleurs, Pamela dit, Bernard votera aux deux élections françaises. C'est vrai, il y a les élections législatives après. Législatives. Et là, je crois qu'on vote pour les députés. Ce sera juste après, c'est en juin, je crois. J'ai noté sur mon calendrier pour pas mettre des choses là. Voilà. Donc, je vous conseille surtout de suivre la presse, les unes de presse. Je sais qu'il y a enfin, il y a 5 ans, quand on avait déjà le salon, je vous avais parlé des unes des journaux. Souvent, même vous avez des journaux comme L'Équipe, par exemple, qui vont en parler, qui est un journal de sport. Il faut regarder les unes de Libération, qui fait souvent des très bonnes unes. Le Monde, etc. Enfin, regardez les unes et comparez. Comparez les unes des journaux. D'accord? Le lendemain du vote, d'accord. Donc par exemple, vous pouvez même l'équipe, enfin comme je vous dis, ils vont en parler parce que c'est hyper important. L'équipe, Le Monde, Libération est connue pour faire des bonnes unes, c'est pour ça que je vous en parle. Même le Figaro, etc. Et puis les journaux locaux aussi, comme Ouest-France. Le Dauphiné, pas vraiment, parce que c'est pas très intéressant. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes si vous intéressez à la culture, c'est de voir les unes des journaux le lendemain du vote pour voir un peu ce qu'ils en pensent et de voir les choses culturelles que vous comprenez pas. Ça, c'est très, très important. parce que il va vous manquer des références. Réfléchissez à ce qui vous manque comme référence pour comprendre et essayer de creuser un petit peu. Alors, Pamela pose ensuite une autre question très intéressante. J'ai une question sur le reportage. Alors, on dit un reportage, le reportage français de l'attaque russe de l'Ukraine. J'ai vu des accusations de racisme quand des journalistes ont dit quelque chose comme ce n'est pas le Moyen-Orient, par exemple. Des exemples, BBC et BFM TV ont été mentionnés dans un tweet. Bernard et moi avons vu des exemples de BFM TV. Je comprends l'accusation parce que peut-être que certains pensaient que c'était normal pour ceux du Moyen-Orient, pas européens. Si tu as vu les nouvelles comme ça, tu penses qu'ils étaient racistes? Oui, il n'y a aucun doute. Alors, je n'ai pas vu les éléments dont tu parles, je n'ai pas vu la BBC, mais je sais que les chaînes d'information en continu, BFM TV et CNews, sont globalement racistes. Il faut voir plutôt ça comme Fox News. Ils ne sont pas aussi mauvais en termes de fake news, mais en fait, ils ont besoin de placer, ils ont besoin de remplir de l'espace vide. D'accord? Donc, c'est grâce à BFM TV et CNews que l'extrême droite se développe en France. Enfin, il n'y a pas trop de doute là-dessus. C'est pour ça qu'Éric Zemmour a autant d'électeurs aussi et de temps de parole. Je vais vous noter ça, le temps de parole. Alors, en fait, à partir du début de la campagne électorale, qui a peut-être déjà commencé, en fait, normalement, dans les médias français, chaque candidat doit avoir le même temps de parole. Donc, le temps de parole, c'est le temps qui est consacré à un candidat, le temps où on interview, etc. Mais en fait, évidemment, maintenant, avec les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, les candidats ont pris de l'avance, ou alors sur les réseaux sociaux, ce n'est pas régulé. Donc, on peut parler à fond d'un candidat, pas du tout d'un autre, etc. Et donc, les chaînes d'information en continu, il faut les considérer comme Fox News. Ce n'est pas aussi pire, d'accord? Mais en fait, ils ont besoin d'avoir de l'audience, et donc ils vont dire des choses qui sont fausses, ils vont le dire fort. Et ils vont inviter des gens qui sont problématiques, juste parce que ça va attirer des gens pour qu'ils disent ah oh, c'est nul, ou alors des gens qui disent ah c'est bien, d'accord? Donc ils sont vraiment des gros vecteurs de messages de la droite, hein, de la droite plutôt extrême. Donc oui, c'est très probablement raciste. Et en fait, en termes de mots aussi, il y a quelque chose qui a été très intéressant, c'était la différence entre migrants et réfugiés. Donc migrants, ça va être des noirs, et réfugiés, ça va être des blancs. D'accord, je le dis de façon très crue, mais c'est vraiment pour te donner cet angle-là, puis je sais que c'est un angle qui t'intéresse aussi. Donc les mots qui sont utilisés sont très importants. Et notamment le ministre de l'Intérieur, que je n'aime pas vraiment, en fait, il a dit. Donc le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui s'occupe des règles de vie à l'intérieur du pays, on peut dire. qui est fasciste. En fait, par exemple, on sait qu'il détruit volontairement les possessions des migrants noirs, ceux qui viennent d'Afrique pour aller en Angleterre. À côté de ça, il vient de dire hier qu'il critiquait les Anglais sur leur manque de solidarité avec l'Ukraine. Donc, les Français étaient là, mais ça n'a pas de sens. Enfin, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas critiquer nos voisins alors que nous, on fait des choses horribles. Donc voilà, en fait, ils utilisent aussi la guerre en Ukraine pour gagner des électeurs, alors qu'en fait, la situation en France n'est pas un modèle. Donc oui, c'est sûr qu'il y a une différence de traitement, notamment, on l'a vu sur les travailleurs noirs, donc souvent africains, mais pas que, qui étaient réfugiés qui travaillaient en Ukraine et qui essayaient d'aller en Pologne et qui se sont fait rejeter par les gardes polonais. Donc oui, il y a des énormes éléments de racisme là-dedans. Donc c'est pour ça, comme tu dis, il faut vraiment réfléchir à qui dit quoi, comment c'est traité, etc. Oui, il faut aider à accueillir les Ukrainiens. C'est pas du tout ce contre quoi je suis. Ce que je veux dire, c'est que quand on va aider des gens qui sont dans le besoin, il faut réfléchir à le faire de façon cohérente ensemble et surtout pas commencer à utiliser une crise pour gagner des voix en période électorale. Voilà, c'est ça. Donc, faire très, très, très attention quand vous écoutez des choses de BFM TV et surtout de CNews. Ça, vraiment, il faut faire très, très attention au traitement de l'information. C'est super important. Enfin, en France, c'est difficile, c'est vraiment catastrophique. Et en plus, il y a de plus en plus de groupes. Notamment, vous en avez peut-être entendu parler ou pas, il y a le groupe Bolloré qui est en train de, c'est un groupe énorme de médias, d'industrie qui est en train d'acheter tous les médias français, même des maisons d'édition de livres, pour justement répandre des idées de droite extrême. Et en fait, ils sont de plus en plus gros et donc ils achètent tous les médias et du coup, il n'y a plus qu'une seule voix et c'est vraiment difficile. Voilà, donc là, il faut. Si vous voyez ce nom, en général, c'est des gens qui se plaignent parce que le groupe Bolloré, je crois que c'est Vincent Bolloré, qui achète tout, qui achète des médias. Achète les médias. Bah, vous avez probablement des problématiques similaires dans vos pays, puisque bah, maintenant, c'est la publicité qui prend le pas sur le journalisme. Et donc, on a des groupes de plus en plus gros de médias. Voilà. Alors, j'ai un peu de temps encore. Très bien. Donc, en fait, ce dont je voulais vous parler, c'était surtout le bilan du salon et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire tout seul. Parce que je m'étais dit, j'allais faire une leçon sur tout, parce que ça me fait tout TOUT, parce que je trouvais ça rigolo. Mais en fait, on a encore un petit peu de temps en étant pratiquement tout seul. On est 20, on est 22 aujourd'hui. C'est très bien. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'était vraiment comment faire pour continuer cette dynamique avec des choses qui vous plaisent. Ce qu'on va faire après le salon, je sais que ça va être donné plus de conseils personnels de moi qui sont pas seulement autour de mieux parler français, mais vraiment sur la culture. Donc, je vais continuer à vous suggérer plein de choses super intéressantes. Mais vraiment, déjà, apprenez ce qui vous plaît à vous. C'est très important. Si ce que vous aimez, c'est le jardinage, faire du vélo, je sais que pour Jack, c'est plutôt le sport, ou même si c'est le voyage en France ou la nourriture, enfin la cuisine, apprenez ce qui vous plaît à vous. Et ce qui est très important, c'est je sais que la plupart d'entre vous ont déjà un très bon niveau de français, ça va être d'ouvrir votre culture. Parce que j'ai beaucoup d'élèves qui vont vraiment essayer de faire de moins en moins d'erreurs. Mais en fait, vous vous noyez là-dedans et vous oubliez que le plus important, au bout d'un moment, c'est de comprendre le contexte autour de vous. D'accord? Et ça, enfin voilà, j'avais mis dans mes notes, posez-vous toujours la question du contexte. Qui parle? Donc, par exemple, si vous regardez un reportage de BFM TV, gardez toujours en tête que voilà, leur but, c'est d'avoir un maximum de gens qui regardent la télé. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que ça représente vraiment ce que pensent les Français, est-ce que ça représente uniquement ce que dit la personne? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et aussi, quand vous allez lire un texte d'humour ou un dessin de presse, par exemple, je sais que on avait fait pas mal de dessins de presse, ou si dans l'humour, on avait fait le chat de Gueuluc. Gueuluc, je pense que. Pardon. Gueuluc, je pense que ça s'écrit comme ça. C'est très intéressant le chat parce que c'est une image et il faut comprendre pourquoi c'est drôle. Essayez de creuser ça tout seul. Ça va vraiment vous faire réfléchir parce qu'il y a le texte, il y a les jeux de mots et il y a toutes les références culturelles. Et vous avez le niveau pour commencer à réfléchir à ce genre de choses. Et là, on a ouvert Exercise Your French jusqu'à ce soir. Et par exemple, c'était un cours qui était important pour moi parce que ça vous donnait beaucoup, beaucoup d'informations sur la culture française, des choses qui sont évidentes pour les francophones, mais qui ne le sont pas pour tout le monde. Là, voilà, je vous montre le chat de Gueuluc. Donc, c'est lui, c'est ce chat, et c'est un dessin de presse à la base qui aussi s'achète en BD. Donc, si vous avez l'occasion d'en acheter, voilà la bande dessinée, si vous avez l'occasion d'en emprunter dans une bibliothèque, ou alors de regarder juste sur Internet. Voilà, il y a toujours des petites blagues. Là, j'étais en train de lire le texte parce qu'en fait, c'est la Belgique qui est au-dessus de la France. Voilà, donc il y a plein de blagues et il faut essayer de comprendre. Donc, allez creuser ça, trouvez des humoristes qui vous plaisent et ça vous permet de réfléchir. Sur Netflix, il y a de plus en plus d'artistes, d'humoristes francophones. Ça peut être intéressant de regarder aussi. Après, une bonne chose pour continuer à écouter des nouvelles musiques ou des anciennes musiques autour d'un thème, c'est d'utiliser les top 10. Alors moi, j'ai Apple Music, mais je fais pas de la pub pour Apple Music. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, Spotify ou autre chose que vous aimez bien. C'est une bonne façon de découvrir des nouvelles chansons parce que là aussi, C'est bien de découvrir des nouveaux chanteurs, des nouvelles chanteuses, des nouveaux artistes, parce que sinon vous restez en fait dans votre bulle de choses que vous connaissez et vous évoluez pas. Et ça, c'est vraiment un piège que je vois chez beaucoup d'élèves qui écoutent uniquement Édith Piaf. C'est bien d'écouter Édith Piaf, mais Édith Piaf, elle était déjà, enfin, c'était plus de la chanson de ma grand-mère que des chansons de mes parents ou de moi. Donc, ça vous permet d'explorer des nouvelles choses pour trouver des nouveaux goûts parce qu'il y a des choses qui vont vous plaire. Pour les expressions, donc World Reference, j'en ai déjà parlé un milliard de fois, c'est vraiment très important. C'est vraiment très, très pratique. Vous avez probablement des dictionnaires, c'est super bien. Mais World Reference, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça va creuser sur des exemples dans les deux langues. Et aussi, vous allez avoir énormément d'expressions et aussi du français moderne, enfin, très, très, très moderne. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Alors que le dictionnaire, il ne va pas toujours vous dire si l'expression française est utilisée ou pas. Je l'ai vu notamment dans le 30-day challenge où j'avais pas mal d'élèves qui étaient nouveaux. Donc c'était très bien. Et ce que je vais dire, ce n'est pas du tout une critique de ces élèves. Mais en fait, je les voyais utiliser des mots qu'ils avaient trouvés dans le dictionnaire, mais qu'en fait, qui étaient complètement démodés ou à côté ou hors de propos. Et ça, c'est des choses qui sont dans le dictionnaire, mais qui sont plus difficiles à mettre à jour parce qu'on ne peut pas le deviner. Ensuite, n'apprenez pas ce qui sert à rien. D'accord? Notamment, enfin, des choses comme le passé simple ou certaines formes du subjonctif. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Vous avez un niveau très, très bon déjà. Et faire des erreurs ou ne pas connaître le passé simple, ce n'est pas grave parce que vous-même n'allez jamais l'utiliser. D'accord? Vous allez le lire. Et là, vous pourrez le comprendre, parce que ce n'est pas très compliqué. Mais pour l'utiliser, ce n'est pas trop la peine, parce qu'en fait, on ne l'utilise jamais en français. Et j'ai une copine qui me dit, vous pouvez oublier aussi sur le genre des mots. Alors ça, c'est son choix. Le faites pas forcément. Mais c'est très difficile. D'accord? Le genre des mots, c'est hyper difficile. D'accord? C'est normal d'avoir du mal. Est-ce qu'il y a des choses notamment avec lesquelles vous avez toujours des difficultés? Dites-le-moi dans le chat, comme ça je vous dis si ça sert à quelque chose ou pas. C'est ma copine d'ailleurs, Christina, dont j'ai déjà beaucoup parlé, qui enseigne l'anglais. Elle est américaine, ça fait 15 ans qu'elle habite en France. Elle m'a dit, j'ai laissé tomber, en fait, c'est trop dur. Il y a trop, trop de choses à apprendre. Je ferais mieux de faire autre chose que d'apprendre le genre des mots. Dites-moi dans le chat, est-ce qu'il y a des choses en français qui vous font toujours, toujours faire des fautes? Comme ça, je peux vous dire si ça sert ou pas. Je vous regarde la question. Par exemple, la Marie-Kélie, c'est très bien, mais on dit je réfléchis à ça. D'accord? Je réfléchis à ça. Réfléchir à quelque chose. Voilà, c'est plus utile d'apprendre ce qu'il y a après les verbes que d'apprendre le genre des mots. Et là... Ok. Marjudy, un type, on peut écrire les mots masculins en noir ou bleu et les mots féminins en rouge. Ah, comment dire au type? Un truc, une astuce, on peut dire. Une astuce. Par contre, un tip, c'est un pourboire aussi. D'accord? Donc, si c'est pour un restaurant, c'est un pourboire. Donc, s'il y a des choses avec lesquelles vous avez encore du mal, dites-le-moi parce que comme ça, je peux vous dire ce qui est important ou pas. Donc là, voilà. Donc, je sais qu'il y a des élèves à qui je dis arrête de parfaire ton français et essaye plutôt de détendre ta culture parce que c'est ce qui va manquer. Parce que les Français adorent la culture. Et donc, c'est hyper important d'avoir des références. Donc, voilà, ça vous aidera à communiquer sur un sujet. Après, ce que je vous conseille aussi, c'est de regarder régulièrement un programme qui vous plaît. L'élocution. Ouais. Alors, l'avantage d'élocution, c'est que tu peux te rendre compte de ce dont tu as besoin au fur et à mesure de ton usage. Donc ça, c'est un bon truc. Par exemple, si tu vois qu'il t'en manque, qu'il te manque quelque chose, on va voir la définition exacte de locution. Ok, groupe de mots. Je veux qu'on soit en train de parler de la même chose. Alors, les locutions, oui, c'est ce que je pensais, c'est très, très large, mais c'est vraiment le genre de truc où, en fait, tu vas voir au fur et à mesure quand tu as juste ou faux, et tu peux noter surtout celle où tu as faux, d'accord? Donc, typiquement, penser, s'intéresser, penser sur, voilà, j'ai réfléchi, réfléchir à, tu vois, ça, par exemple, pour Marie Kelly, c'est bien de le noter parce que c'est un truc qui va revenir dans son usage du français, d'accord? Réfléchir à quelque chose. On dit rarement j'ai réfléchi sur. Non, on ne dit pas. On dit j'ai réfléchi à. Kat dit j'ai des difficultés avec les verbes de ou a. Et bien là, c'est la même chose. Ça, par contre, ça peut être intéressant. Ce n'est pas une faute très grave, mais c'est sous... là, il va falloir le retravailler parce que c'est des choses qui vont revenir. D'accord? Donc en fait, c'est vraiment. C'est comme vous. Enfin, c'est. Il faut réfléchir à la fréquence de l'utilisation. Si vous l'utilisez beaucoup, il faut le réparer. Si vous l'utilisez jamais, il ne faut pas le réparer. D'accord? Donc, l'élocution, donc tout à fait. Donc ça, tu vois au fur et à mesure que que tu les vois, les verbes avec de ou a, en fait, il faut que tu travailles verbe par verbe et en fonction de ce dont tu as besoin. C'est pour ça que je vous incite fortement à parler français au maximum. Parce que ça vous permet de voir là où vous faites des fautes ou là où vous hésitez. D'accord? Je sais que, enfin, c'est pour ça qu'on a créé quelque chose comme The French Conversation Club. Et j'ai beaucoup d'élèves qui me disent, oui, mais je préférerais parler avec un natif. Oui, mais il y a déjà des natifs qui donnent des cours. Enfin, tu peux déjà faire des cours de conversation tout seul avec un natif. Ce n'est pas moi qui vais créer ça, ça existe déjà. Mais là, en fait, le but du Conversation Club, c'est de pratiquer. Et de se rendre compte de ce qui vous manque. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que je vous dis, parlez avec votre chat en français, votre chien, votre plante verte en voiture. Parce qu'en fait, tu parles et tu te dis, ah, ce verbe, je ne sais pas comment ça se dit. Donc là, tu peux faire une note sur ton téléphone. I don't know how to say, I expect to arrive at 5:30. D'accord? Et après, tu peux réfléchir. Ou alors, je ne sais pas, I don't know how to say, venir de ou venir à. D'accord? Et ça vous permet de faire une banque où dans un cahier, vous écrivez les trucs qui sont importants pour vous. Parce qu'en fait, ça vous correspond. Pour certains, ça va être un vocabulaire précis du football ou du ski, ou d'autres, ça va être, comme je vous ai dit, le jardinage. Ça vous correspond, en fait. Il faut vraiment vous mettre dans cette idée de « je vais apprendre le français qui va me servir à moi ». Donc, sur les jeux, c'est vraiment pas mal aussi de suivre quelque chose régulièrement. Donc là, je vous ai mis un lien vers les sites, le site de France Télévisions. Donc il y a des trucs super généralistes sur les connaissances. Donc par exemple, question pour un champion, le quiz des champions. Ça va être des questions de connaissances où vous pourriez traduire la question et savoir. Après, vous avez des jeux de mots comme Motus. Là, il faut trouver des mots en fonction des lettres. Donc là, ça vous fait réfléchir au vocabulaire. Et il y a des jeux qui sont juste populaires, comme Interville, où en fait, là, c'est des gens qui doivent faire des épreuves. Et l'idée, en fait, c'est juste d'avoir une habitude en français. Un truc qui vous plaît. Je sais que moi, j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, un jeu qui s'appelle House of Games. C'est un truc sur la BBC. C'est un truc... sur la culture populaire et les jeux de mots. Et en fait, j'essaye de répondre aux questions, je me pose et j'essaye de répondre aux questions. Et ça nous fait rigoler. Enfin, si on gagne, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas et ça nous fait rigoler. Et en fait, le but n'est pas d'être dans une démarche d'apprentissage, c'est juste de se poser des questions et de voir les choses qu'on ne comprend pas aussi. D'accord? Donc vous allez être beaucoup en échec, mais il y a des fois on réussit des trucs et c'est sympa. Et après, vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Il y a des jeux sur la chanson. Un truc qui vous botte, quoi. L'idée, c'est d'avoir une sorte de comfort food pour la tête en français, quel que soit le sujet. Est-ce qu'il y a un jeu Wordle en français? Ah, c'est une bonne idée. Ben, écoute, je pense que oui, vu que j'ai vu que c'était dans toutes les langues. On va regarder. Je n'ai pas joué volontairement parce que je ne voulais pas commencer à jouer. Mais tu vois, ça peut être très dur. Ah, peut-être pas. Attends. Vous rêvez d'un Wordle en français? Essayez ces sites. Voilà, donc apparemment, ça n'existe pas forcément. Mais en tout cas, il y a d'autres options. Voilà. Je vais te mettre le Sutom. Ah, c'est Motus en anglais. Le subtil jeu de mots sur Motus est une variante un peu différente. Ah, d'accord. Ouais, bah c'est. Lindy, j'adore Sutom. Bah ouais, bah c'est comme Motus apparemment. Moi j'aime bien Motus aussi. Et voilà, tu vois, c'est des trucs où tu te dis, oh, c'est rigolo. Enfin, t'es pas en train de. T'es pas en train de jouer ta vie, tu vois. Mais au moins tu prends du plaisir, soit à faire un jeu, soit à regarder. Et puis tu découvres des nouvelles choses aussi. Attention à pour des jeux comme Who Wants to be a Millionaire, like, c'est qui veut gagner des millions en français. Les questions du début, c'est les plus intéressantes pour vous parce que c'est toujours des questions de culture populaire, surtout enfantine. Et donc, ça vous permet de voir ce qui vous manque et puis d'apprendre des choses. Ça, c'est vraiment cool. Une ressource que j'adore, c'est Bon Patron. C'est une super app pour grammaire. Ah oui. Merci beaucoup. Ouais, je vais noter. Bon, je vais mettre le lien. Bah, envoyez tous les trucs que vous aimez bien, comme ça on peut les partager. Bon Patron, tout à fait. Ah zut. Copier. Et ça, tu vois, typiquement, Bon Patron, c'est des choses qui sont utilisées par les francophones, donc ça va vraiment vous donner quelque chose d'authentique. Alors qu'il y a des ressources, je sais, comme Lingui, j'ai beaucoup d'élèves qui aiment bien, mais des fois, il y a des choses, je ne sais pas d'où ça sort, quoi. Motus Interville. Après, vous avez Arte. Donc, sur Arte, c'est la chaîne franco-allemande très pro-européenne. Vous avez des petits programmes culturels. Donc, bon, évidemment, en ce moment, il y a beaucoup de programmes qui expliquent la guerre en Ukraine. Mais vous pouvez regarder le journal, par exemple. Le journal, il dure 30 minutes. Il est diffusé à 7 heures, je crois, autour de 7 heures. En fait, à un moment, on le regardait beaucoup, mais j'ai arrêté parce que ça me faisait trop peur. Et c'est très intéressant d'avoir un point de vue différent du vôtre, quel que soit votre pays, parce que ça donne un éclairage francophone et c'est très axé sur le monde et l'Europe. Et Carambolage, évidemment, qui est très, très, très connu dans le monde de l'enseignement du français. Parce que, hop là, guerre en Ukraine, incontournable. Voilà, toutes les émissions. Donc le journal, il est là et c'est super bien. J'adore ce journal. 28 minutes, c'est une émission de débat, mais des fois, ils invitent des gens que j'aime moins. Et c'est surtout ça, voilà. Donc, Carambolage, c'est hyper intéressant parce que ça vous explique la culture française et la culture allemande. Si vous ne vous intéressez pas du tout à la culture allemande, ce qui est intéressant, c'est que ça va mettre en avant des points de la culture française qui sont différentes et qui sont souvent différentes de votre pays aussi. Donc, ça, c'est top. Voilà, il y a des trucs sur la cuisine. Blow Up, c'est une émission sur le cinéma. Mais là, c'est moins français. Et là, vous avez le Dessous des cartes qui parle de géopolitique, qui est une émission très connue parce qu'en fait, vous avez des cartes du monde et vous avez les éléments qui apparaissent. Enfin, c'est essentiellement graphique. Et vous voyez des éléments et ça explique des flux, ça explique des échanges, ça explique un peu l'histoire. Elle est très, très bien, cette émission. Et ça fait des années qu'elle existe. Et elle est vraiment super. Et évidemment, le journal pour les enfants aussi, très bien. Voilà, donc ça vous permet en fait regarder. Ah, Pamela dit, j'aime le dessous des cartes, je regarde sur YouTube. Ouais, en fait, tout à fait, il y a aussi des émissions, enfin, il y a pas mal d'émissions qui sont disponibles sur YouTube. Là, c'est pour vous montrer la plateforme d'Arte, mais effectivement, Carambolage, ils sont très, très, très présents sur YouTube. Le dessous des cartes aussi, parce qu'en fait, Arte a une politique vraiment de diffusion de ses programmes très forte. Pour qu'un maximum de gens puissent en profiter. Je vais vous le mettre ici. Donc, tout à fait, le dessous des cartes. Donc, choisissez des choses qui vous plaisent. Ça, c'est très important. Comme ça, vous vous faites votre avis et vous vous amusez. Sur les podcasts, pour ceux qui aiment bien les podcasts, il y a Arte Radio qui a une appli très bien et France Inter qui a une appli très bien. Et là aussi, vous avez beaucoup, beaucoup d'émissions sur l'histoire, sur la politique, la société. Après, sur des choses très spécialisées, je vous invite aussi à choisir des programmes. Par exemple, pour ceux qui aiment le jardinage, il y a Silence, ça pousse, qui est vraiment super. Et pour ceux qui aiment la cuisine, on a les adaptations des programmes internationaux Masterchef et Top Chef, qui sont, pour ceux qui aiment ça, très bien. Moi, je ne regarde pas parce que sinon, je vais avoir envie de tout cuisiner. Et pour ceux qui aiment les émissions de cuisine, c'est hyper intéressant parce que là aussi, comme il y a la cuisine française qui est si importante, ça vous permet de voir un peu ce qui se passe en vrai. Et puis aussi, très, très important pour des émissions de télé-réalité comme ça, vous écoutez comment les gens parlent en vrai. Et ça, c'est super important parce qu'il y a moins de scripts, il y a moins de choses préparées en avance. Et donc, vous entendez quand ils font tomber leur gâteau, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils réussissent leur gâteau, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils se félicitent ou qu'ils ont des difficultés. Et là, par exemple, vous pouvez noter du vocabulaire ou le retenir. Parce que ça, c'est très, 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 très bien. Pour les émissions en live, comme ça, de télé-réalité, écouter ce que disent les participants, c'est vraiment très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage fortement à utiliser un VPN pour accéder aux programmes français auxquels vous n'avez pas accès dans votre pays, surtout pour France Télé et Arte. C'est vraiment bien parce que ça vous permet de les regarder et de vous faire plaisir. Et enfin, un truc très important, et ça je le dis pour tous, n'idéalisez pas la France. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle The Discovery of France et qui est très intéressant, qui explique comment est-ce que la France a été idéalisée pour les étrangers afin de faire du tourisme. Et ça ne veut pas dire n'aimez pas la France, ce n'est pas du tout ça, mais quand on vous dit des choses, quand vous écoutez les infos, réfléchissez, d'accord? C'est un pays avec des vrais gens, avec des problèmes, avec des choses bien. Et gardez toujours en tête ça, d'accord? Ne voyez pas la France comme juste le Louvre et les châteaux de la Loire. Je sais que ce n'est pas le cas, mais justement, quand vous regardez des émissions, surtout des émissions comme Le Journal, enfin Le Journal ou Carambolage, ça vous permet aussi de réfléchir à la France dans sa globalité en tant que pays. D'accord? Pas juste comme un touriste, ce qui est exactement ce que vous ne voulez pas faire, donc c'est bien. Et si ça vous intéresse, il y a aussi pas mal de livres sur la sociologie et l'histoire de la France, notamment les éditions La Découverte, qui font plein de sujets très intéressants, et vous avez le niveau pour les lire. Ils font beaucoup, beaucoup de bouquins géniaux. Et pour la linguistique, je vous en ai parlé, mais le livre Le français est à nous est vraiment super, et ça vous explique l'apprentissage du français, son histoire, et c'est super bien. Et ça va vous décomplexer sur les fautes que vous faites. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce qui est vraiment super important, ce que vous devez garder du salon, c'est que vous êtes capable de comprendre du français parlé, que il faut pas avoir peur de poser des questions, il faut réfléchir à ce que vous ne comprenez pas, il faut réfléchir à ce que vous ne voyez pas. Et demandez autour de vous ce qu'en pensent vos amis. Mela, elle a son mari qui est français, donc c'est facile. Mais voilà, posez des questions, creusez, réfléchissez. Et maintenant, si ça vous intéresse, allez chercher des choses sur, par exemple, le journal d'Arte, qui vont vous donner des perspectives différentes sur des trucs qui vous paraissaient évidents. D'accord? Et suivez un peu l'élection présidentielle française, mais finalement, c'est plus le résultat qui vous intéresse. Voilà. Ben c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'ai soif. Voilà. Voilà, ça me brise le cœur de plus faire le salon, mais c'était vraiment quelque chose de génial qu'on a fait en petit groupe qui était excellent. Avec des sujets hyper creusés où on a pu aller ensemble sur des choses que j'aurais pas pu dire à tout le monde. Et le but de ce qui va venir après, normalement, ça va être justement de partager des choses culturelles plus en profondeur, plus creusées que juste les petites vidéos du mardi, normalement. Et vous devriez quand même vous y retrouver un petit peu pour avoir des choses plus de moi, comme vous aviez l'habitude ici. Alors, il y a un mail de notification pour le nouveau programme. Oui. T'inquiète pas, tu seras au courant, il n'y a aucun souci. Je te remercie beaucoup pour ta question. Ça va être hyper simple, vous allez voir, vous allez aimer, vous n'allez pas aimer, vous allez voir, ce sera très très simple. Et l'idée, c'est qu'en fait, on est beaucoup, enfin, qu'il y ait plus de gens qui puissent en profiter, parce que finalement, le salon, c'est juste le lundi après, mais il y a pas mal de gens qui n'étaient pas disponibles. Et donc, je vais pouvoir étendre ce que vous appréciez dans le salon à plus de gens pour que plus de gens en profitent. Et comme je vous dis, je vais faire des petites sessions comme on fait là, quand on a le temps, pour beaucoup plus, enfin, ouvert à tous. Et je sais que vous serez dispo et que vous serez là et que ce sera vraiment un plaisir de vous y retrouver. Voilà. Ouais, c'était un vrai plaisir. Ah, Jack est là. Bonjour, Jack. Et bonjour, Barbara et Kelly. Super. Et vous aurez le replay vendredi. et voilà. Après, Janet dit, le salon va me manquer. Oui, enfin, moi aussi, ça va me manquer. Et tu sais, je ne ferme pas la porte complètement à l'idée de refaire des choses différentes. Et puis, ça ouvre aussi la porte à faire d'autres formats. Je sais que le 30-day challenge, par exemple, c'est un truc super cool. Et justement, d'aller creuser un peu des choses culturelles, c'est hyper intéressant et ça me fait grand, grand, grand plaisir. Voilà. Hop, ça y est. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis très contente de revoir votre salon encore. Je vois que Pamela a beaucoup de travail derrière elle. Et je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à poser des questions, à m'envoyer des mails. Même si on est une équipe, les mails qui doivent m'arriver m'arrivent, il n'y a aucun problème sur tous les sujets que vous voulez. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peut-être une bonne nuit. Et à bientôt. Salut à tous! Au revoir!